franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le droit à la paresse.
On a le temps. Faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps.
Alexandre le Bienheureux n'est pas le seul à le penser. Baudelaire disait déjà « La paresse est féconde ». Et les auditeurs qui ont répondu à l'enquête de Radio France « Quel travail voulons-nous » inclineraient à le penser, peu à peu en tout cas, à la question « Selon vous, l'être humain peut-il vivre sans travailler ?» Ils répondent « Oui » à 45%. Et à cet autre, « Votre priorité dans la vie est-elle le travail ?» Oui, seulement à 12%. Les loisirs sont mieux classés, 18%, et la famille l'emporte largement, 63%. L'emploi est devenu un souci, lancinant. Le travail, dont il faut le distinguer, est à son tour considéré avec pessimisme. Il permet moins de se réaliser. La paresse ne pourrait-elle ouvrir demain bien des portes que notre frénésie a fermées? On ne peut préjuger de l'avenir, en tout cas. Son histoire n'est pas celle de l'oisiveté, mais celle, Thierry Pacou, bonjour, d'une idée. Alors Thierry Pacou, vous êtes un philosophe, un géographe, un historien des idées appliquées. Et votre plus grand succès d'édition, peut-être, c'est
L'art de la sieste. C'est du reste l'heure.
C'est tout à fait l'heure. C'est traduit en des langues innombrables.
14 langues, je crois.
Alors, innombrables sont les pages d'un livre que les presses universitaires de France publient en même temps que notre enquête de Radio France aux arènes. C'est le dictionnaire du travail. Il y a quelque chose comme 1700 colonnes qui avancent en rang serré. Vous avez simplement fait, parce qu'il faut quand même économiser ses forces, Thierry Pacou, une notice.
Oui, oui, absolument, mais c'est déjà pas mal.
Ben oui. Deux colonnes consacrées à la paresse. Et comme vous êtes l'invité d'une émission d'histoire, nous allons vous soumettre à un rythme chronologique. Le travail, c'est une affaire de production. Alors là, on pourrait dire, dans l'optique chronologique qu'il a commencé il y a un million d'années, c'est aussi une affaire de représentation. Et alors, pour nos sociétés, il suffit de commencer il y a 2000 ans avec le christianisme. Alors, on sait que la paresse appartient, selon le christianisme, aux sept péchés capitaux. Mais enfin, il ne faut pas imaginer quand même que chez les chrétiens, l'afferment, le zèle énervé, nous fasse accéder directement au paradis. Regardez Louis de Funès. Il arrive chez Saint-Pierre, mais en état de pile électrique.
Ah non, vous n'allez pas m'escamoter depuis le temps que j'attends. C'est une honte de voir ça.
Qu'est-ce qui lui arrive, celui-là?
Enfin, je prends le chien à témoin, on vous demande de remplir des fiches d'arrivée au premier étage, il n'y a pas d'armes dans les autres criers, il n'y a un porte-pubes pour ça, il n'y a pas de ligne de réclamation.
Vous êtes français, vous?
Oui.
Ça se voit.
Martin, Paul Gaston.
Oui, bon, arrivez à votre affaire.
Mon affaire? Parlons-en. Je suis mort comme tant d'autres de morts dites naturelles.
Naturel.
C'est-à-dire pas naturel du tout. Je n'ai pas vécu d'un métier dangereux, je ne travaillais ni aux pièces, ni dans une mine, je n'étais pas sportif, ni guerrier. Je menais une vie ordinaire, normale. La vie normale de tous les hommes des villes d'aujourd'hui. Quelle vie! De fous, leur vie nerveuse, sans peau, haletante, brutale. Les rendez-vous l'un sur l'autre, la concurrence, les débiteurs insolvables, les échéances, l'argent qui sort toujours et qui ne rentre jamais. On se fait de la ville, on tombe malade et on claque. Si vous avez voulu nous punir parce que notre grand-mère Ève aimait trop les pommes, c'est injuste, mais c'est réussi.
Le Seigneur sera certainement très touché de vos critiques. En attendant, allez en paix, mon enfant.
Merci, ça sera pas trop tôt. Il y a un billard?
Oui, il y a un billard.
Louis de Funès, à ses débuts, 52, un film de Jean Dréville qui demande un billard, de l'encre et un encrier au paradis. Il est absolument incapable de vie spirituelle. Il s'agite dans tous les sens. Et le christianisme demande le travail, mais aussi son inscription dans un temps calme, celui de la perspective du salut.
Alors effectivement, les disciples du Christ étaient des pêcheurs. Le père du Christ, le père humain était charpentier. Et donc, on a effectivement toute une série de métiers dans cette configuration de cette époque-là. Sauf que le Christ lui-même ne travaillait pas. Il n'était pas salarié. Il ne pointait pas, moi j'espère, régulièrement. Mais il allait condamner les marchands du temple quand même. Alors, je ne connais pas de religion libératrice, à dire vrai. Donc, le christianisme, pas plus qu'une autre, va jouer sur la culpabilité. Et effectivement, il faut racheter le péché originel en travaillant et en se nourrissant à la sueur de son front. Et c'est vrai que le mot « travail » en français, et vous avez bien fait tout à l'heure de le distinguer d'œuvre et puis aussi d'emploi ou de métier, c'est que le mot « travail » vient de tripalium, qui est un instrument de torture à trois pieds, qui servait aussi à ferrer les chevaux. Et donc, ce n'est pas joyeux. La condamnation au travail n'est pas quelque chose qui libère. Maintenant, dans la chrétienté, après tout le monachisme qui va se construire la règle bénédictine, par exemple, eh bien, va organiser temporellement la journée avec des heures dédiées à telle ou telle activité. Et là, le mot paresse n'existe pas dans le vocabulaire chrétien de cette période. On parle d'assédie, c'est un terme un peu savant.
Assédie.
Voilà, assédie, assédia en latin, pour simplement désigner le manque d'enthousiasme du prêtre par rapport aux choses de la chrétienté. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez appliqué, pour le dire autrement. Donc, plus tard, on va le représenter, souvenez-vous, les tableaux de Bruegel, où on voit ces gros moines-là, bien ventrus, qui digèrent dans une meule de foin, en siestant, justement. Mais cette image de la paresse, elle est plus tardive.
L'homme est co-créateur du monde aussi, dans le christianisme du Moyen-Âge, et dans le protestantisme qui va accentuer l'image de l'entrepreneur qui fabrique la transformation de la création.
C'est pour ça qu'il a une lourde responsabilité, c'est qu'il doit travailler précisément, mais travailler en même temps sans excès. C'est-à-dire que le protestantisme est une religion de la sobriété. On est économe. Mais toute la thèse de Max Weber essaie d'expliquer ça. C'est parce que le patronat protestant est plus économe que le patronat catholique et moins exubérant qu'il va économiser et donc construire tout un système dynastique, finalement, et bancaire. Mais derrière ça, il y a quand même cette idée que le travail doit être l'expression d'une offrande à Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un enrichissement personnel, comme on pourrait le croire, c'est vraiment la constitution de toute une société qui est régie par la chrétienté, par le protestantisme. N'oublions pas que sur le dollar, il y a Dieu.
Alors tant mieux si de la 16 vient l'accumulation capitaliste. À l'époque des Lumières, vous citez assez longuement Rousseau, dont on fête cette année le tricentenaire de la naissance. Chez lui, il y a une ligne de fracture qui se dessine. Parce que d'un côté, il est hostile à l'oisiveté, et de l'autre, il pense que le bonheur du farniente est important.
Oui, c'est-à-dire qu'il est persuadé qu'en fait, il faut que l'être humain se réconcilie avec lui-même. Et pour ça, évidemment, il faut pouvoir rêver, il faut pouvoir se promener, il faut pouvoir herboriser, il faut pouvoir observer la nature et donc être attentif aux autres. C'est aussi un homme de la conversation. On a des très belles pages sur la fin de sa vie où il n'hésite pas à parler à tous ceux qui viennent le voir à Ermenonville. Bon, donc Rousseau, c'est un solitaire qui est toujours en activité, je dirais ça comme ça. Alors évidemment, il ne travaille pas, mais il est en activité.
19e, dans les classes supérieures, cette fracture se maintient et s'approfondit entre les générations des fondateurs très laborieuses et les générations neuves qui veulent profiter. Je parle des classes aristocratiques et bourgeoises, bien évidemment. Parfois aussi, entre les hommes et leurs épouses. Voici chez Eugène Sue, un garçon bien né et qui est fort mécontent de l'indolence de son épouse.
Vraiment, Florence, c'est insupportable.
Mon ami.
Comme si vous ignoriez que nous devions sortir ensemble à 2 heures. Votre voiture est attelée.
Faites-la dételer. Je ne bougerai pas pour un empire.
Mais vous savez bien qu'il est indispensable que nous sortions ensemble, d'autant plus indispensable que vous n'êtes pas sorti ce matin comme vous le deviez.
Pas eu le courage de me lever.
Vous aurez du moins celui de vous habiller et surnommer.
Mon cher Alexandre, n'insistez pas.
Ah, Florence, c'est une plaisanterie. Encore une fois, ma chère, les achats que nous avons à faire...
Oh, il me faudrait courir de boutique en boutique, descendre de voiture, monter des marches. Il y a toujours des marches, peut-être même un escalier. Rester debout pendant des heures, descendre, remonter en voiture. Oh, voyez, rien que d'y songer, je suis morte.
Alexandre le malheureux est scandalisé par Son épouse Florence et Jean-Pierre Marielle, dans un film de René Lucot, Gensu, a écrit « Les sept péchés capitaux ». C'est la naissance, là, dans la classe aristocratique et bourgeoise, de ce qu'on appellera, à la fin du XIXe siècle, la classe de loisirs.
Oui, c'est-à-dire que là, en fait, apparaît quelque chose de nouveau qui est produit par le tourisme. C'est-à-dire que les aristocrates qui n'ont pas le droit de travailler, comme chacun sait, à part les métiers des armes et peut-être les métiers de la religion, eh bien, vont quand même, pour parfaire leur éducation, d'abord en Angleterre, mais ça va très vite se généraliser, pratiquer le grand tour, c'est-à-dire aller visiter la France et l'Italie généralement. Et donc là, ils sont dans une certaine oisiveté. Paresseux peut-être, mais surtout oisiveté, et ils vivent évidemment de manière rentière. Et ce tourisme va générer les premières formes de luxe pour les bagages, pour les vêtements, etc. Les palaces, les transatlantiques, les trains couchettes, etc. Donc on voit bien qu'il y a là tout un appareillage qui permet à une classe sociale de se conforter, de s'imposer. Et le théoricien sociologue américain Veblen va l'appeler la classe de loisirs. Alors c'est très curieux parce que ce n'est pas les capitalistes, ce ne sont pas non plus les gens les plus fortunés nécessairement, c'est ceux qui finalement choisissent une vie de villégiature. On va passer 6 mois l'hiver sur la Côte d'Azur, à l'époque c'est l'hiver. On va ensuite passer l'été à la montagne, tout ça va s'inverser par la suite, et finalement on fréquente toujours les mêmes. C'est-à-dire que je suis propriétaire d'une grande hacienda de Mexico, je viens à Paris passer 3 mois, je rencontre quelqu'un qui lui-même possède une mine dans tel autre pays. Donc il y a une espèce d'international de cette classe des loisirs.
La classe de loisirs, Veblen, 1899. Il critique Marx, dont Le Capital, avec la contribution d'Engels, est paru plus tôt. Marx et Engels, par certains aspects, ils appartiennent à la classe de loisirs. Ils ne sont pas les productivistes que les communistes du XXe siècle décriront.
Les deux personnages qui sont extraordinaires et très sympathiques sont des jouisseurs. Moi, je dirais ça comme ça. Maintenant, on le sait par les 12 volumes de leur correspondance, d'une part, et aussi par la nouvelle biographie qui vient de sortir, qui sont enfin capables de d'ébranler les statues qu'on avait édifiées à Marx et Engels dans le stalinisme soviétique. Là, on nous montre des gens qui aiment bien les clubs, qui aiment bien fumer le cigare, boire, et surtout discuter, chanter. C'est pas des gens qui sont toujours en train de travailler.
Faire telle chose le matin, telle autre l'après-midi, par exemple, pratiquer l'élevage, la critique le soir, alors qu'on a chassé à l'aube, mais ne jamais devenir chasseur, pêcheur, éleveur, critique à temps complet. Dans l'entourage familial de Marx, Laura, sa fille, épouse Paul Lafargue. En 1880, ils vivent à Londres. Édouard Vaillant, élu socialiste, n'est pas loin. Paul Lafargue est très content. Il a fouillé dans la bibliothèque de son oncle.
De son beau-père.
Et il a trouvé des livres extraordinaires.
Alors, il trouve un livre très extraordinaire, effectivement, de Moreau Christophe, qui est connu à l'époque pour son énorme enquête sur l'état des prisons en France, et qui par ailleurs a écrit une histoire d'oisiveté des Romains à nos jours.
Et à l'aide de toute cette documentation et des conversations avec son beau-père, il publie une série d'articles dans le journal L'Égalité, 1880, appelé « Un grand retentissement ».
La révolution est faite. Le travail réparti entre tous à raison de 3 heures par jour. C'est votre père qui serait content, Laura. La semaine de 18 heures.
Et le camarade Vaillant est d'accord?
Si on peut y arriver, que la même paye. Réduire le temps de travail, oui. Mais jusqu'où?
Jusqu'à ce qu'il y ait du travail pour tous. Mais le moins possible pour chacun.
Après la parution en article 1880, c'est la parution en brochure 1883, Le droit à la paresse.
Alors c'est un livre, et c'est un pamphlet, c'est un livre très très bien écrit, et je subodore que Marx a donné un coup de main à son gendre, mais qui avait aussi une bonne écriture, hein. Il avait écrit un petit pamphlet sur Napoléon le Petit, etc. Bon. En tous les cas, ce livre commence par une phrase terrible qui est « Honte au prolétariat français » qui, lors de la révolution de 1848, avait tout fait pour élaborer un droit au travail. Et lui, il dit, on a raté cette révolution, on s'est trompé. C'était pas le travail qu'il fallait réclamer, c'était la paresse. D'où cette idée très forte de dire un droit, pas seulement un devoir. Alors c'est quelque chose évidemment qui va déplaire à la plupart des socialistes, toutes tendances confondues de cette époque, parce qu'effectivement, l'idée numéro un, c'est de permettre à chacun d'avoir un revenu suffisant pour vivre correctement. Et pour ça, on ne voit pas d'autre solution que le travail industriel et que la multiplication des usines et l'augmentation de ce cycle infernal dans lequel nous nous trouvons encore, c'est-à-dire produire beaucoup pour consommer et consommer pour produire beaucoup. Et là, on n'est pas du tout dans une esquisse d'une quelconque décroissance.
Alors, un grand disciple, peut-être inattendu, c'est le chanteur Georges Moustaki.
Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les droits de l'homme, qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer les droits au travail, qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain défendant à tout homme de travailler plus de 3 heures par jour. La terre, la vieille terre frémissant d'allégresse sentirait bondir en elle un nouvel univers.
Il n'était pas de ceux qui entrent dans l'histoire. Nous sommes peu nombreux à servir sa mémoire. Il ne se posait pas en saint ou en prophète, mais cherchait comme nous le bonheur. La fête. Il rêvait d'une vie que l'on prend par la taille, plutôt que de la gagner comme une bataille. Il disait que la terre était pleine de fruits, et de pain et d'amour, et que c'était gratuit. Il parlait de ne plus jamais plier l'échine, ni de se prosterner devant une machine. Il souhaitait pour les générations futures de ne souffrir jamais d'aucune courbature. Sans vouloir enseigner, sa parole était claire. En cela peut-être, elle est révolutionnaire. Je voudrais rendre grâce à ce maître en sagesse qui ne demandait que le droit à la paresse.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le droit à la paresse de Paul Lafargue, Défense et Illustration aujourd'hui par Thierry Pacaud, notre invité, et Georges Moustaki. Il a tout à fait le rythme qui convient, Georges Moustaki. Puis c'est bien que ce soit un Grec qui chante Lafargue qui, lui, demandait le retour à l'Antiquité, avant le christianisme, l'otium chez les Romains par exemple.
Absolument. Donc, l'otium, c'est la traduction latine du terme grec scolé, qui signifie un temps pour rien d'autre que pour la connaissance de soi et d'autrui, ce qui est le paradoxe et même, à mon avis, l'inverse qui va se produire, puisque, comme vous le savez, le mot scolé va donner école, choulos, school, etc. Et c'est-à-dire l'inverse de du temps pour rien d'autre que la connaissance de soi et d'autrui. Et le mot otium va donner oisiveté en français, parce qu'en fait, le mot loisir vient de licérer, qui signifie tolérer, licite. Donc on est dans une autre généalogie, j'allais dire, des termes.
La généalogie, la récapitulation, et puis alors, la prévision chez Lafargue, il pensait que les machines allaient suffire à produire ce dont l'homme avait besoin, où il imaginait une production plus mesurée à
non,
terme.
Non, il était l'âme. Alors c'est peut-être un reproche qu'on pourrait lui faire maintenant, hein, c'est qu'il était fasciné par le monde des machines et il pensait que plus les machines seront performantes, plus elles seront automatisées, plus elles pourraient se substituer au travail des humains. Et évidemment, on s'est aperçu aujourd'hui, plus d'un siècle après, que ce n'est pas du tout le cas, bien sûr. Et donc là, il y a cette idée que la technique avait sa propre logique. Et en même temps, il y a une autre source d'inspiration qui sont les utopistes, pas seulement français. Thomas More, qui est le père fondateur de ce genre littéraire, imaginait pour chaque utopien 6 heures de travail par jour.
Bon, Fourier, lui, là, on travaillait beaucoup moins, 2 à 3 heures seulement par jour. Et puis, les colonies phalanstériennes qui se sont édifiées aux États-Unis au 19e siècle, dont la FARG avait connaissance, eh bien, finalement, on travaillait au rythme qu'on souhaitait. Du reste, ça a été une des causes de leur faillite. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui a dit, il n'y a aucune raison qu'on ait le même salaire, le même revenu. Moi, je t'arrête pas de bosser. En plus, je fais la vaisselle, je m'occupe des mômes. Et puis, il y a un tel qui glandouille dans son coin. Donc, le rapport au travail et leur rapport à la paresse, c'est toujours aujourd'hui quelque chose qui pose problème.
Un fait qui n'est pas sans importance, 1911, Laura Marx et Paul Lafargue se suicident ensemble. On l'a entendu tout à l'heure, la voix d'Édouard Vaillant, reconstituée. Édouard Vaillant, député socialiste, et son épouse, peintre, meurent ensemble en 1915. Il y a une cohérence peut-être dans cette attitude qui consiste à choisir de travailler modérément et de choisir la date de sa mort à 70 ans, disent Paul et Lafargue, on n'en peut plus, on ne va pas continuer jusqu'à la dégradation.
Exactement. Alors là, on pourrait dire que c'est le summum de la paresse, c'est-à-dire que c'est le refus de cette déchéance qui est le vieillissement, de ce naufrage, comme certains l'appellent. Et donc, c'est une volonté de prendre encore acte de sa propre destinée, de dire, voilà, je ne travaille pas parce que le travail, c'est dégradant, et je ne veux pas non plus me laisser aller et mourir. Et surtout que dans le regard de l'autre, de l'être aimé, il y a un troisième couple magnifique, c'est André Gors et Dora, qui décident, il y a quelques années, de mourir ensemble, justement.
André Gors, qui, dans les années 60-70, signait Bosquet dans Le Nouvel Observateur et défendait des thèses en partie héritées de Paul Lafargue. Années 60-70, c'est un retour en force de ce genre d'idées. Alors, il y a le film de Godard dans Les Sept Péchés Capitaux de 61. Il y a le film d'Yves Robert, dont on entendra un extrait, Alexandre le Bienheureux, en 68. Et puis, ce film fondateur extraordinaire, en 72, GB et Jacques Doyon, l'an 01. Nous sommes ici dans une séquence clé devant un poste à essence qui se vide inexorablement.
Il va falloir économiser sur l'essence, attention.
Dis donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faudra économiser l'essence?
Les gars des raffineries ont décidé d'apprendre la musique.
Oh, blague.
Mais non, c'est officiel.
Et qu'est-ce que vous ferez pour nourrir votre famille? Vous irez chasser le bison?
Ben, on enverra tous les gars qui fabriquent ces cochonneries aller gratter la terre avec leurs pieds, comme ça on manquera pas de blé.
Alors, qu'est-ce que vous allez foutre?
On va faire la culture exactement comme avant, comme avant qu'il y avait le matériel, qu'on soit obligé d'aller à l'usine pour fabriquer le tracteur.
Mais en usine, vous avez été bien content d'y aller pour vous payer les télévisions, les frigos, les machines à laver. Mais vous voulez revenir des QTRE comme il y a 100 ans, quoi.
Tous ces trucs-là, le frigo, la télé, la machine à laver, on les a. Hein. Moi, je les ai achetés. Et puis, pour pouvoir payer ces saloperies, ben, ma femme, elle est forcée d'aller bosser caissière au Vini-Prix. Moi, je suis forcé de bosser tous les jours, 8 heures par jour, comme un con, pour avoir ça. Et le fric que j'ai sert à réinvestir, à réacheter des trucs comme ça. Alors non, on peut pas continuer décemment à vivre comme ça. Il y en a un ras-le-bol, il faut qu'on arrête, qu'on vive moins con.
L'an 01, GB Doyon, Thierry Pacot.
Eh ben c'est un slogan assez intéressant et à réactiver. Je pense, évidemment, on arrête tout, c'était le slogan, on arrête tout et on pense, quoi. Et on vit autrement. Et c'est vrai qu'il dénonce quelque chose qui a l'air tellement banal qu'on penserait que tout le monde serait d'accord avec eux, c'est qu'il y a une obsolescence de l'homme. Là, je prends un titre d'un livre fameux d'un philosophe difficile qui est Günther Anders. Mais l'obsolescence de l'homme, c'est-à-dire qu'on a un système social qui est le système de société de consommation qui, en fait, ne consomme pas les marchandises simplement, mais aussi les humains. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes usés, fatigués, on est rendus obsolètes par le fait même de sans cesse travailler pour produire. Ivan Illich avait fait un calcul, c'est aussi
Ivan Illich, la même mouvance mexicain,
et il avait fait un calcul pour démontrer que chacun, pour entretenir sa voiture, eh bien finalement devait travailler plusieurs heures par jour que pour son automobile, qui par définition est immobile sur un parking. Donc c'est une auto-immobile.
Mais la paresse n'est pas un refus de l'énergie. quand vous le définissez, Thierry Pacoz. Un moyen de se recharger pour ouvrir les portes d'une autre énergie.
C'est un bienfait créatif. Ce n'est pas du tout l'ennui. Ce n'est pas non plus d'être désappointé. Ce n'est pas d'être malheureux. Pas du tout. La paresse est un acte de survie, de jouissance. Il y a une paresse heureuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous impose. Et même quelqu'un comme Bachelard, dans l'intuition de l'instant ou dans la dialectique de la durée, expliquait bien qu'il fallait qu'on ait ces moments propice à la rêverie, ces moments où on est capable de se mettre un peu à l'abri du monde et un peu hors jeu, hors de tout ce tumulte-là. Et je pense que c'est une activité saine.
Les acteurs de l'an 01 parlaient de machine à laver. Vous diriez que c'est un enzyme, la paresse, un activateur.
C'est un activateur, absolument. Et c'est en même temps, je pense, une gourmandise.
Alors, on a parlé histoire, mais comment, selon vous, habiter le temps présent ?
Alors, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que la majorité de nos concitoyens sur cette petite terre ne connaissent pas forcément le monde du travail comme nous le connaissons dans les sociétés anciennement industrialisées. Et donc, il y a ce paradoxe étonnant, c'est que 1,5 milliard d'individus sur 7 milliards vivent ce qu'on appelle, nous, la vie quotidienne, c'est-à-dire rythmée par ces trois moments, le travail, les transports et puis...
Le temps de loisir.
Le temps de loisir et de sommeil. Bon, mais... Et du coup, ça apparaît comme étant très enviable. Et la majorité des populations du monde rechercheraient, avec une certaine affinité, pouvoir correspondre à ce modèle-là au moment où nous, peut-être, on commence à s'interroger. Enfin, quand je dis nous, c'est récurrent, hein, parce que si Paul Lafargue n'a pas eu le succès qu'on aurait pu espérer pour lui, il a été très contesté par les marxistes et les socialistes de toute tendance. Seuls les libertaires l'ont peut-être pris un peu au sérieux. N'empêche qu'il est toujours traduit et lu abondamment. Et je subodore qu'on retrouve du Lafargue chez les hippies, qu'on retrouve du Lafargue chez les néo-ruraux 68ards, qu'on retrouve du Lafargue aujourd'hui chez bon nombre de territorialistes ou autres décroissants qui sont pour les villes lentes, qui sont pour les villes en transition, etc.
Mais la contestation, en effet, continue des thèses de Paul Lafargue et en rang serré, à gauche comme à droite. On va finir avec Alexandre le Bienheureux, mais Jacques Sigal, notre réalisateur, que je salue puisque pour cette émission, il revient spécialement de vacances à Saint-Pierre-et-Miquelon, a entrelardé les propos d'Alexandre le Bienheureux de quelques vérités de bon sens prononcée en leur temps par Christine Lagarde soi-même.
Ne bouge pas comme ça, tu me fatigues. Je bouge, tu dors couché en rond. Je m'arrête pour attendre, te voilà en arrêt à renifler le vent. Ne bouge pas comme ça, tu me fatigues, que je te dis.
Physiologiquement, ils deviennent des couche-tard, c'est-à-dire ils ont un retard de phase. Et vous comprendrez facilement que s'ils deviennent des couche-tard et qu'ils sont obligés de se lever tôt, naturellement, on arrive à une privation de sommeil qui peut avoir des conséquences tout à fait importantes.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ?
Ils sont en général dans une situation d'opposition et se coucher tard est une façon de manifester leur indépendance et parfois leur opposition. Et puis...
On a le temps, il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu ? Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Dis donc, t'as déjà regardé une fleur de carotte ? Eh, tiens, regarde ça. Bah tu vois, c'est ça la vie.
Comme quoi, on ne passe jamais trop de temps à penser. C'est une réflexion qu'a faite une fois Christine Lagarde des Français. On passe trop de temps à penser ou à contempler et observer. Merci Thierry Pacoz. Votre dernier livre, c'est Un philosophe en ville. Vous promenez à travers la banlieue, Choisy-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, à vélo, votre contribution au dictionnaire du travail. Et puis l'enquête auprès des auditeurs de Radio France. Quel travail voulons-nous aux éditions des Arènes? Ils sont extrêmement loquaces. Les auditeurs de Radio France, vous connaissez la légende selon laquelle les grands singes de Bornéo refusaient de parler. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les oblige à travailler. Alors maintenant qu'on a obligé les auditeurs de Radio France à travailler, ils parlent d'abondance. Éric Morin, Michel Bézikian, sous la conduite de Jacques Sigal, Kamixou Poux-Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard, l'équipe de préparation. Vous savez de quoi on parle demain, Thierry ?
Non.
Des rois fainéants. Enfin, je veux dire de l'époque des Mérovingiens.
Il y a encore des Thierry, alors.